Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, c'est l'heure de la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi, en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Bonne année, meilleurs vœux aux éditeurs, ainsi qu'à toi et à tous ceux qui nous écoutent. Avec nous pour cette émission, Pierre Daréville, secrétaire départemental de la Fédération communiste des Bouches-du-Rhône et candidat dans la 13e circonscription, détenu par un autre communiste, Gaby Charroux, également maire de Martigues. Bonjour Pierre Daréville.
Bonjour.
Également bonne année, meilleurs vœux.
Bonne année à vous.
Vous l'avez compris, on va parler de présidentielle législative, mais pas que, puisqu'il sera aussi question de métropole, d'emploi ou encore de migrants. Ça sera dans la deuxième partie, mais auparavant, Pierre Daréville. Une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Elles ne sont pas très nombreuses les circonscriptions susceptibles d'être gagnées par la gauche en PACA lors des prochaines législatives. Et elles sont rares également en France, celles où l'élection d'un député communiste en juin ne relève pas de la politique fiction. D'où l'enjeu autour de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône qui s'étend du sud d'Istres à Martigues en passant par Port-Saint-Louis-du-Rhône et Port-de-Bouc. Le député PCF sortant, Gaby Charroux, on vient d'en parler, anticipant la loi sur le cumul des mandats, préfère rester maire de Martigues. Et c'est donc vous, Pierre Daréville, qui l'a choisi pour reprendre le flambeau. Dans ce studio, en 2008, lors de votre élection comme premier secrétaire départemental, nous avions rappelé votre parcours. Vos débuts en culotte courte du côté de Nîmes à la Jocque, la jeunesse ouvrière chrétienne, vos aventures journalistiques à Paris et à l'Humanité, et lors de l'éphémère relance de Pif Gadget. Près de 10 ans plus tard, vous êtes encore le numéro 1 du PC dans les Bouches-du-Rhône. Toujours cato, toujours coco, vous maintenez le cap. Mais plus que jamais, les courants semblent défavorables. La région, le département et Aubagne sont désormais dirigés par la droite. Le Front National a quasiment réuni 50% des suffrages régionaux dans la circonscription où vous vous présentez. Et la Marseillaise, dont vous présidiez la destinée il y a encore quelques jours, à la tête des éditions des Fédérés, vient à nouveau de déposer le bilan. Alors, comment sortir par le haut d'une crise politique où l'issue proposée est autoritaire ou technocratique? C'est une de vos formules, c'est l'une des questions posées dans votre dernier essai « Un printemps pour la République ». Avec un parti socialiste exsangue, entre la grande marche médiatique d'un Macron et la flamboyante épopée d'un Mélenchon insoumis, le PCF, dont vous êtes aussi l'un des dirigeants nationaux, peine à se faire entendre. À gauche, il faut réinventer les paroles et la musique. Passionné de chansons, c'est donc pour vous le moment de donner de la voix.
Pierre Daréville, une réaction à ce communiqué à la sauce ravie, à ce portrait à la sauce ravie.
Non, c'est un portrait qui est relativement fidèle à ce que j'essaie d'être, qui retrace effectivement des difficultés politiques dont on ne peut pas nier l'existence, mais auxquelles on essaie de s'affronter. Mais je pense qu'on va y venir dans la discussion.
Oui, alors comme disait Michel Guéraud tout à l'heure, le PCF peine à se faire entendre. Il existe actuellement des primaires de la gauche. Ils n'auraient pas eu leur place. Il n'y aurait pas eu la place pour un candidat communiste, insoumis, front de gauche. Je ne sais pas comment vous allez le baptiser.
Vous savez, cette question s'est posée il y a déjà plusieurs mois, je crois que c'était au mois de janvier 2016. Or, il s'avère que le Parti Socialiste, au moment où cette question est arrivée, a tout fait immédiatement pour essayer de faire en sorte d'installer un scénario où, d'ailleurs c'est un scénario qui a échoué, hein, où tout serait organisé pour faire triompher François Hollande. Bon. Et donc assez vite, on s'est retrouvé dans une discussion close du point de vue des primaires. La deuxième chose qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que moi je conserve un doute sur cet outil. C'est un peu un outil Canada Dry. C'est-à-dire que ça vous donne le sentiment de prendre une décision, d'avoir du poids sur les événements, mais en réalité, c'est pas forcément toujours le cas à l'arrivée. Donc, il y a un débat, c'est une primaire qui est une primaire principalement socialiste, qui vient dans un moment très rapproché de l'élection présidentielle. Entre-temps, François Hollande a dû renoncer. C'est d'ailleurs, je crois, quand même le témoignage d'un échec sérieux de ce quinquennat. Aujourd'hui, nous avons choisi un candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Nous avons effectué ce choix après de nombreuses semaines de discussions chez les communistes, de discussions aussi autour de nous, avec les gens. Nous avons fait ce choix et donc, maintenant, on est parti à la bataille.
Avant de passer la parole à Michel Guéraud, ce candidat, vous l'avez choisi, Jean-Luc Mélenchon, ou il s'est choisi tout seul ?
Bah, vous savez bien qu'il y a eu un débat, c'est-à-dire que la manière dont il a procédé n'était pas forcément celle que nous aurions souhaitée. Mais en même temps, nous avons pris notre temps. Nous avons pris le temps de la discussion entre nous. Et bon, effectivement, on a fait ce choix-là aussi parce que nous souhaitions pas, comme ça a été dit, ajouter la division à la division. Nous souhaitions engager une dynamique de rassemblement à gauche. Quel est l'enjeu pour nous, au sortir de ce quinquennat dirigé par le Parti Socialiste, c'est de rassembler toutes les énergies progressistes, toutes les énergies de gauche, pour essayer de les faire triompher, de les faire gagner à l'élection présidentielle et aux élections législatives. Or, effectivement, le risque que nous courons, c'est d'aller vers un tout autre scénario où risque de s'affronter la droite et l'extrême droite. Donc nous avons affiché dès le début, nous, notre volonté d'essayer de créer les conditions du plus large rassemblement possible pour essayer de gagner cela. Bon, voilà, manifestement, et on n'est pas seul dans le paysage politique, donc on ne décide pas de tout. Il y a des choses qui tiennent à nous et d'autres non, évidemment. Donc voilà, on a porté cette voie, on va essayer de continuer de la porter. Mais aujourd'hui, il nous est apparu qu'il fallait prendre position pour l'élection présidentielle, et donc on a pris cette position-là.
Alors on va revenir sur Mélenchon et le PC. Mais la primaire, on s'arrête un petit moment. Est-ce que pour autant, on a compris que le dispositif, c'est pas vraiment votre truc, par principe, la primaire, mais est-ce que le résultat de cette primaire vous indiffère ou pas? Est-ce qu'il y a un enjeu pour vous, malgré tout? C'est pas, on l'a compris, c'est pas votre élection, mais est-ce que le résultat vous indiffère? Mélenchon l'a dit très fort.
Moi, je ne bouge pas les oreilles. J'écoute ce qui se passe dans cette primaire et j'entends des choses qui, entre guillemets, me font réagir. Et j'en entends aussi qui me confortent, parce que je crois que la critique de ce qui s'est passé depuis 5 ans, elle est très forte, y compris parmi l'électorat socialiste, parmi les gens qui ont voté François Hollande lors de l'élection de 2012, y compris au sein même du Parti Socialiste. Donc il y a, je crois, une nécessité de mener véritablement le débat à gauche sur ce que doit faire la gauche, sur ce qu'elle doit être, sur les propositions qui doivent être les siennes, et sur les erreurs qu'elle a faites et qu'elle ne doit pas faire. Bon, alors, quand je dis la gauche, d'ailleurs, vous voyez, c'est un peu compliqué. Le mot est abîmé, il a été allègrement abîmé ces dernières années. Moi, la gauche dont je parle, c'est celle qui porte le progrès social, c'est pas celle qui s'attaque aux droits du travail. C'est celle qui porte les valeurs de la République le plus fort possible. C'est pas forcément celle qui se comporte de manière que je considère quand même, pas juste à l'égard des réfugiés, notamment dans la dernière période. Donc voilà, il me semble, et on pourrait égrener un certain nombre de sujets comme ça, mais je pense qu'on y viendra dans la discussion. Je pense véritablement qu'il y a des tas d'hommes et de femmes qui, dans ce pays, attendent une politique de progrès social, démocratique, écologique.
Est-ce qu'il voudrait pour cela que dans deux dimanches, ça soit un Montebout ou un Hamon, pour donner des noms, qui emporte cette primaire? Est-ce que ça ouvrirait des possibles, des partenariats possibles, des discussions possibles, plutôt qu'un Valls?
Bon, moi, je m'amuse pas à des jeux de tactique, surtout, bon, nous, on n'y est pas dedans. Donc, je m'amuse pas à dire qu'est-ce qui serait le plus souhaitable, etc. Bon, c'est une affaire qui concerne le Parti Socialiste et quelques-uns de ses alliés. Bon, donc, je n'ai pas envie, moi, de prendre position dans ce débat de la primaire.
C'est pas le mien. Vous avez quand même un portrait robot du partenaire idéal, on va dire.
Ce que je peux dire, en tout cas, évidemment, mais c'est ce que vous venez de dire vous-même, il y a sans doute des gens parmi ceux qui s'expriment aujourd'hui avec lesquels il sera plus facile de travailler. Lorsqu'on regarde ce qui a été fait ces dernières années, on voit bien que, enfin, moi, j'ai manifesté, j'ai défilé dans la rue je ne sais combien de fois depuis 5 ans contre la politique menée par le gouvernement et notamment par Manuel Valls, c'est pas un secret. Voilà. Et contre la loi Macron, et contre etc. etc. Bon. Donc on voit très bien qu'il y a des choses, il y a des projets politiques différents qui s'affrontent, et qu'il y a sans doute des gens avec qui il est plus facile de travailler pour rassembler les hommes et les femmes de gauche. Voilà. Mais à partir de là, moi, mon problème n'est pas de prendre position dans cette primaire. C'est pas la nôtre. C'est pas notre sujet pour l'instant.
Alors, le PS, malgré tout, je suis désolé, c'est le moment, c'est leur moment un peu politique, c'est le temps du PS en ce moment. On a sur la droite du PS un Macron qui dit le PS est terminé, il faut faire autre chose. Et sur sa gauche, un Mélenchon qui dit le PS est terminé, il faut faire autre chose. Les deux, finalement, sont d'accord en disant attention, cette primaire est un piège, le PS est un parti mort, il faut construire autre chose, n'allez pas vous fourvoyer dans ce jeu de dupes. Ça, c'est pas votre discours ?
Oui et non, mais moi, enfin, en tout cas, le Parti Socialiste n'est pas mon parti, et moi, je suis engagé au Parti Communiste, donc c'est ce parti-là que j'ai envie de faire vivre et auquel j'ai envie de donner un avenir. Hein, donc, voilà, je porte pas de jugement de ce type. Moi, ce que je considère surtout, c'est qu'il existe, je crois, une majorité pour le progrès social dans ce pays. Elle s'est manifestée à plusieurs reprises ces dernières années. Je pense même qu'elle s'est manifestée en 2012 à l'élection et qu'elle a été fortement déçue par ce qui s'est passé à la suite. Mais elle s'est manifestée au printemps dernier, lorsque il y a ces manifestations très importantes contre la loi travail et qu'elles sont soutenues par une majorité de l'opinion. Je crois qu'il y a des aspirations progressistes extrêmement fortes dans le pays. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire exister en politique. C'est à ça qu'il faut arriver à donner une consistance. Voilà. Donc ma bataille, c'est celle-là. Donc je tire des traits nulle part et je dis il faut construire une majorité sur cette base-là.
Il y a un problème d'émiettement, vous le disiez tout à l'heure, il y a le risque à la présidentielle d'un second tour avec l'extrême droite et la droite. Il y a un émiettement des forces de gauche, des forces progressistes. Est-ce qu'il faut les rassembler et est-ce que ce rassemblement peut aller jusqu'à une partie du Parti Socialiste qui peut-être reste encore dans des valeurs communes avec celles que vous pouvez défendre ?
Mais je n'exclus rien. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui se sont plutôt reconnus ces dernières années ou ces dernières décennies dans le Parti Socialiste et qui attendent une politique de gauche. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, voilà, moi, j'ai envie de travailler avec tous ceux qui sont disponibles pour porter cette politique-là. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'injonction au rassemblement en nous disant, voilà, allez, rassemblez-vous, c'est comme ça, et on continue la même politique. Cette politique ne nous convient pas. D'ailleurs, un des premiers gestes de François Hollande, qui a été élu avec une majorité dans laquelle nous avons eu notre part. Jean-Luc Mélenchon y a eu sa part, les communistes y ont eu leur part. Nous avons contribué à l'élection de François Hollande. Nous avons fait un résultat significatif lors de cette élection présidentielle. Il n'a même pas eu un regard en notre direction pour nous dire, voilà, est-ce qu'on peut porter un projet ensemble ? Est-ce qu'on peut constituer une majorité ? Non, je suis pas sûr, compte tenu de ce que nous connaissons aujourd'hui, que nous aurions de toute manière accepté cette proposition. Mais il n'y a eu aucun geste fait dans notre direction. François Hollande n'a pas cherché à rassembler la gauche. Il a cherché à gouverner de manière libérale. Et c'est ce qu'il a fait. C'est au bout du compte, sa politique est marquée du sceau du libéralisme. Bon. Donc il a fait ce choix. Et ça a contribué à fragmenter le pays et à fragmenter la gauche. Donc ça, je le regrette. Nous ne participerons pas à une entreprise qui serait de cette nature-là.
D'accord. Alors, présidentielle, le candidat du Parti communiste, c'est Mélenchon. Ça s'est joué à peu et on a vu quelque chose, enfin, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du PC, hein, la longue histoire du PC, c'était une première, c'est-à-dire que le premier secrétaire, Pierre Laurent, a été désavoué, en fait. Il proposait donc un soutien critique, on va dire, hein, vous me direz si c'est le terme choisi, à l'égard de Mélenchon. Il a été désavoué par le Parlement, et finalement les militants plus tard ont validé, mais à peu de choses près, ce choix. Alors c'est quoi quelle est la tension là ? C'est quoi ? Pourquoi tant d'hésitation ? Et pourquoi ce choix ?
Moi, je trouve que c'est une séquence qui est très parlante parce que d'abord la démocratie s'est exprimée à plein. On a eu un débat instruit. On a pris des décisions ensemble. On va les appliquer ensemble. Et justement, il y a une forme de rupture avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que on explique que finalement il aurait été désavoué. Il a exprimé son avis dans un débat. Chacun compte pour un. Il y a eu différents.
Enfin, c'est le premier secrétaire quand même.
Oui,
c'est pas,
bien sûr. Mais
chacun compte pour un. Lui, un peu plus.
Bien sûr, mais en tout cas, je me sens assez libre dans ce parti pour pouvoir donner mon avis, et même si à l'arrivée, ça n'est pas l'avis majoritaire, que ça n'empêche pas que nous puissions continuer à agir ensemble, parce que ce qui nous rassemble est très fort et qu'on mène un combat commun. Donc, moi, je n'ai pas vécu ça comme un drame. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, en réalité. Voilà, il y a eu un débat, il a été... Alors, ce débat, quels sont les termes de ce débat ? C'est la question que vous me posez. D'abord, ça a porté sur... La question de savoir si nous ne devions pas nous-mêmes présenter un candidat à l'élection présidentielle. Hein, c'est une question qui se pose pour tout parti dans cette 5e République.
Alors prenons juste ce point. Pourquoi ne pas présenter un candidat alors? La dernière fois, ça n'a pas été un franc succès, c'était Marie-Georges Buffet, c'était... Aïe, je me souviens plus,
93%.
Il y a des chiffres qui marquent. C'est la deuxième fois que le Parti communiste ne présente pas de candidat.
C'est pas pragmatique, c'est plus... en disant on va se casser la figure, on n'est pas assez audible, il faut être... voilà, c'est pas notre élection, c'est, la présidentielle c'est pas notre truc, on n'y va pas. C'est ça?
D'abord, ça fait pas que la deuxième fois. Il y a eu au moins encore une fois précédemment, sous la 5e République, où nous n'avions pas présenté de candidat, dans mon souvenir. Voilà, il n'y a pas de, comment dire, de systématisme en la matière. De manière générale, l'élection présidentielle dans la 5e République, c'est une élection centrale. Bon, donc, et nous le regrettons. Nous le regrettons parce que nous considérons que le présidentialisme, c'est plutôt une maladie pour la démocratie et il faudrait changer de système de notre point de vue. Et en même temps, effectivement, si on veut porter des idées, si on veut rendre visibles des batailles, bah, c'est plus facile si on participe à cette élection que si on n'y participe pas directement. Bon. Donc ça, c'est la première question qui nous était posée. La deuxième, c'est que nous avons cherché à rassembler. Dans la dernière période, nous avons inventé des choses. Nous avons inventé le Front de Gauche, pas tout seul, avec d'autres, pour essayer de créer des rassemblements larges, à vocation majoritaire. C'est pour ça qu'on avait choisi, d'ailleurs, la fois précédente, Jean-Luc Mélenchon, mais vous parliez de 2007. On avait déjà essayé de rassembler largement avec les collectifs antilibéraux. Ça n'avait pas fonctionné comme nous le souhaitions, mais il y a cette volonté pour nous. Bon, le problème, c'est que l'élection présidentielle, elle concentre tout autour de beaucoup, pour beaucoup, autour de questions de personnes, et elle rend assez difficile des dynamiques collectives, de rassemblement collectif dans laquelle on peut regrouper des gens qui sont différents mais qui à un moment donné de l'histoire peuvent avoir quelque chose à faire ensemble et à changer ensemble. Voilà. On s'est retrouvé en face de ce problème-là. Le choix que nous avons fait, nous, c'est de dire on a construit dans la dernière période un certain nombre de choses avec d'autres, y compris avec Jean-Luc Mélenchon. Donc on s'est... Sa candidature était déjà déclarée, hein. Il avait annoncé son intention, il était déjà parti en campagne. Et donc voilà, nous on a considéré le paysage politique tel qu'il était et on a regardé, voilà, quels sont nos objectifs dans cette échéance? Quels objectifs nous pouvons poursuivre? Nous, on ne travaille pas pour la boutique. On veut faire avancer des idées, on veut... gagner des avancées pour les gens, concrètes. On veut faire avancer la cause du monde du travail et de la création. C'est ça qui nous intéresse. Donc, nous avons considéré qu'il y avait un certain nombre de convergences fortes avec Jean-Luc Mélenchon sur des sujets qui nous importent et qu'on pouvait, avec lui, mener cette bataille, ce qui ne nous empêche pas, nous-mêmes, d'exister dans la bataille présidentielle et la bataille législative. Parce que ce que je regrette... un peu dans la manière dont s'organisent les choses, mais ça c'est le résultat de réformes institutionnelles qui ont été faites il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu plus que ça même, c'est que l'élection présidentielle éclipse tout. Or, les majorités politiques ne se créent pas à l'élection présidentielle, elles se créent à l'élection, aux élections législatives. C'est là qu'on est capable de rassembler une diversité et de constituer des majorités.
On va y arriver, mais quand même. Alors là, moi, faisant de la politique fiction, je viens d'adhérer au Parti communiste.
Très bonne nouvelle. Je vous félicite.
Et il m'agace un peu, ce Mélenchon, quand même. C'est-à-dire qu'il dit qu'ils même me suivent, c'est moi qui détermine le programme. Non, moi, je discute de rien. La fois précédente, vous aviez été avec le Front de Gauche co-élaborateur du programme. Là, non, c'est... c'est... Alors, il parle bien, c'est vrai, il parle fort, il me fait penser à Jean Marché un peu, des fois.
En d'autres mots, et dit plus rapidement, est-ce que vous ne servez pas seulement de marchepied à Jean-Luc Mélenchon?
Est-ce que j'ai une tête de marchepied? Je crois pas. Nous, on a une existence politique, on a un enracinement dans ce pays, dans un certain nombre de territoires. Donc, on va porter notre parole. Mais effectivement, vous avez soulevé un certain nombre de questions que nous nous sommes posées.
Il va y avoir deux programmes. Il va y avoir le programme du Parti communiste. Vous allez travailler sur des propositions qui seront parallèles à celles de Jean-Luc Mélenchon ou pas?
Mais nous, on va alimenter le débat parce que c'est notre rôle. C'est notre rôle de mettre des idées sur la table, d'essayer de construire des choses. Et c'est aussi le moment d'une campagne électorale. C'est ce moment-là, je crois. c'est un moment de débat politique où des idées se débattent, se discutent entre forces politiques, entre candidats, mais surtout avec les citoyennes et les citoyens. Donc oui, on va mettre des choses sur la table. On a déjà commencé. Hein. On a nous aussi une brochure qui s'appelle « La France en commun ». Que nous popularisons en ce moment depuis le début du mois de janvier là, voilà, dans laquelle il y a des propositions qui pour partie d'ailleurs sont les mêmes que celles de Jean-Luc Mélenchon, pour partie sont parfois différentes, mais bon, ben c'est le débat. Et pour moi, de toute manière, comme on n'a pas une conception de la démocratie où il y a un chef et où on le suit, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, vous me signalez l'épisode tout à l'heure de nos débats sur justement la candidature et du fait que Pierre Laurent n'avait dans un premier temps pas forcément été majoritaire dans nos discussions. Bon ben voilà, nous on est dans la discussion, on est dans le débat, ben on va poursuivre ça, donc on ne s'interdit pas de mettre des discussions et des sujets sur la table.
Pierre Larréville, à titre personnel, vous étiez sur la ligne de Pierre Laurent, c'est-à-dire on s'accroche tout de suite à Mélenchon, ou vous étiez avec l'appareil en disant bon, peut-être que ça serait bien de présenter un candidat.
Alors, l'appareil, je ne sais pas ce que c'est l'appareil.
Est-ce que des choses nébuleuses.
Voilà, non, mais il y a des formules des fois, bon, y compris, bon, enfin bref, peu importe. Bon, cela étant, moi, ma position personnelle, ça a été effectivement de voter pour faire campagne avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, pour faire une campagne communiste, mais y compris pour appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon.
Alors, vous avez parlé des convergences avec Jean-Luc Mélenchon. Rapidement, ou peut-être plus en détail, les divergences avec Jean-Luc Mélenchon, vous qui êtes communiste.
Alors, justement, souvent on me pose cette question-là, mais j'ai pas envie d'y répondre. mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez entendu tout ce que je vous ai dit sur la logique de rassemblement qui est la nôtre. Donc moi, je prends pas les choses comme ça. Je suis pas en train de faire le décompte des désaccords. Je préfère, à l'inverse, regarder tout ce qui peut nous rassembler, et c'est ça d'ailleurs qui nous a fait pencher vers cette décision-là. C'est la volonté justement de ne pas s'arrêter à ce qui peut parfois faire débat, mais on a des débats y compris entre nous, vous voyez, à l'intérieur de mon parti. On a des discussions permanentes sur un certain nombre de sujets sur lesquels, bah oui, tout le monde s'interroge, et c'est normal. On réfléchit, on a les yeux ouverts sur la société, on écoute ce qui se dit autour de nous. Bon, voilà.
Alors Jean-Luc Mélenchon, candidat des communistes ou avec les communistes au présidentiel, ça s'est déjà vu, c'était aux dernières présidentielles. Ça a marché, enfin, il n'a pas gagné l'élection présidentielle, mais il a fait plutôt un bon score. Qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ou qu'est-ce qu'il faudrait supprimer pour cette nouvelle présidentielle?
Vaste question. D'abord, moi, je crois qu'il faut continuer sur une idée importante. Je crois qu'il faut gagner la bataille des idées. C'est ce que nous avions entamé hein, la fois précédente, c'est-à-dire la volonté de remettre en mouvement des choses qui permettent de lutter contre la résignation, qui permettent de reconstruire du possible et de l'espoir. Parce que on nous a expliqué encore ces 5 dernières années que, bon, vous comprenez, il faut être réaliste, la mondialisation, l'Europe, la compétitivité des entreprises, etc., etc. Tout ça a alimenté un certain nombre de reculs sociaux en permanence. Et moi, je crois qu'il faut lutter contre ça, de plus belle, j'ai envie de dire, voilà. Et je pense, c'est la deuxième chose peut-être qu'on pourrait dire, qu'il y a matière à rassembler là-dessus. Il y a des tas de gens qui ont envie que ça aille mieux. Et peut-être parfois, ils n'osent pas avoir envie que ça aille mieux, même. Ils se retiennent de cela. Donc je crois que le discours que nous devons tenir, c'est un discours vraiment qui a vocation à s'adresser largement à la société et à essayer de la convaincre, de lui donner confiance en elle-même, en sa capacité à relever les défis qu'elle doit affronter. Que ce soit des défis économiques et sociaux, mais que ce soit aussi les défis environnementaux, qui sont des défis majeurs aujourd'hui, qui font partie des préoccupations importantes que les gens ont dans la tête. Vous savez, on a mené, le Parti communiste a mené une enquête il y a quelques mois de ça, une grande enquête dans tout le pays, ce qu'on appelait la grande consultation citoyenne, dans laquelle on est allé à la rencontre de tas de gens. Il y a, on va dire, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont répondu à notre enquête. Et on s'est rendu compte que contrairement au portrait de la France que brossent les grands médias audiovisuels, eh bien, il y a des aspirations très progressistes qui existent dans notre pays. Et c'est ça qui vient en premier. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut arriver à redonner du souffle à tout ça.
Michel ?
Vous avez prononcé le mot écologie. Est-ce que ça fait partie des divergences que vous pouvez avoir avec Jean-Luc Mélenchon ? Alors, il y a le point sur le nucléaire. Pierre Laurent a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps. Enfin, rappelant qu'il n'était pas pour une sortie aussi rapide, en tout cas, que du nucléaire que le souhaite Mélenchon. Est-ce que vous partagez sa planification écologique, enfin ce verdissement du logiciel progressiste qu'il met énormément en avant dans cette campagne? Est-ce que c'est une préoccupation qui est aujourd'hui celle du Parti communiste?
Oui, la préoccupation écologiste et environnementale, c'est une préoccupation majeure. Pour nous, elle l'est pour la population, mais bien sûr, elle l'est aussi pour nous.
En même temps, jusqu'à présent, les communistes ont toujours n'ont pas voulu choisir entre emploi et écologie. C'est toujours été le porte-à-faux.
On a souvent dans le débat public eu tendance à opposer les deux. Mais moi, je pense que la solution, elle n'est pas dans le fait d'opposer les deux. Au contraire, on ne peut pas relever le défi environnemental sans relever le défi du social et vice-versa. Les deux sont profondément liés. Moi, je ne pense pas qu'on puisse découper les choses de cette façon-là. Donc, oui, le défi écologique est un défi majeur. Et donc, c'est une préoccupation des communistes. Je sais que ça ne se voit pas bien et que, bien souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup de caricatures à ce propos qui existent dans les représentations publiques à notre sujet. Mais c'est un sujet important. Après, il peut y avoir des différences d'appréciation sur tel ou tel sujet, mais ce sont des débats politiques. Moi, il y a une idée qui me tient à cœur là-dessus, c'est... Vous voyez, être écologiste aujourd'hui, je pense que c'est pas... Comment dire, on ne peut pas dresser un portrait scientifique de ce que signifie être écologiste aujourd'hui. Je crois qu'il y a un débat autour de la manière, un débat politique, autour de la manière d'affronter les défis environnementaux. Et de la même manière qu'en économie, il y a des débats sur la manière d'affronter les défis du chômage, etc. etc. Donc, on peut discuter de ça. Alors, moi, j'ai un point de vue écologique.
Prenons un point qui est discuté dans la primaire. On revient à cette primaire socialiste. Il y a un candidat, Hamon, qui dit la croissance, il faut arrêter d'avoir le regard là-dessus. C'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les solutions. Il faut s'interroger sur quel type de croissance il faut... Il faut faire le deuil d'un certain nombre de politiques industrielles. Il faut repenser la productivité. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous...
Bien sûr. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut travailler à de nouveaux modes de production et de consommation aujourd'hui dans notre pays. Et il faut, je crois, injecter de la démocratie là-dedans. Parce que la décision, bien souvent, sur des sujets majeurs du point de vue environnemental, elle revient à des actionnaires. Pour qui la boussole n'est absolument pas de savoir comment on respecte l'humain ou la planète. La boussole, c'est de savoir s'ils vont faire des dividendes à deux chiffres ou pas. Bon. Donc, moi, ma préoccupation, effectivement, elle est qu'on puisse relever ce défi de l'environnement. Et donc, ça veut dire des nouveaux modes de production. Mais je pense que, contrairement à une idée assez répandue, on a besoin d'industrie pour ça. On a besoin d'industrie pour relever les défis climatiques et les défis écologiques de manière générale. Et donc, il faut de la recherche, il faut transformer un certain nombre d'outils, il faut imposer un certain nombre de normes. Voilà, mais il faut travailler là-dessus.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Avec nous, Pierre Daréville, secrétaire départemental de la Fédération communiste des Bouches-du-Rhône et candidat dans la 13e circonscription détenue par un autre communiste, je le disais, Pierre Charroux. On va en parler dans quelques instants. Juste avant, pour en finir avec les primaires, il y a un candidat qui se présente, lui, pas aux primaires, c'est Macron. On en a parlé tout à l'heure avec Michel. Macron qui a des supporters plutôt actifs dans le département, puisque son premier déplacement en tant que candidat anti-système, il l'a fait ici à Marseille, capitale régionale. Anti-système, une réaction, Pierre Daréville, à ce vocable revendiqué par quelqu'un comme Macron?
C'est assez cocasse. C'est assez cocasse parce que, d'abord, Emmanuel Macron, il a été quand même l'un des artisans de ce quinquennat. D'abord comme conseiller, un des conseillers principaux de François Hollande. Ensuite, comme ministre de l'économie. Et aujourd'hui, il apparaît comme quelqu'un qui est tout à fait neuf. Et je rappelle qu'auparavant, il a été un grand banquier d'affaires. C'est de notoriété publique. Donc, je ne sais pas ce que ça signifie. Quel est le système qu'il combat? Vous voyez, c'est ça qui m'interroge.
Comment vous expliquez que les gens trouve un certain écho à ce que quelqu'un dise comme Macron, je suis un candidat anti-système? On aurait pu s'attendre à ce que ce soit les communistes qui disent ça.
Mais ça dépend de quel système il parle. Moi, je pense que c'est pas un candidat qui combat le système, et notamment le système capitaliste. Bien au contraire, il est au cœur de cela. Donc voilà. Bon, après, il peut y avoir des formules marketing. Il l'emploie. Il n'est pas le seul à employer cette formule, hein.
Parce que, le Front National aussi,
oui, tout à fait. Voilà. Donc, je ne sais pas à quoi font référence ceux qui emploient cette formule. Moi, je sais pourquoi je mène un combat. Et mon combat, il est effectivement contre ce système capitaliste. Et je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit le fer de lance de ce combat.
Les communistes, en intégrant la gauche dite de gestion, la gauche de gouvernement, en siégeant même au gouvernement avec les socialistes, est-ce qu'ils ne se sont pas un petit peu perdus, noyés dans ce système?
Ce qu'on pourrait dire, il y a deux idées qui se bousculent en moi, donc je vais essayer de les traiter séparément. La première chose, quand on parle de système, il y a une tendance à diviser aujourd'hui en deux l'espace démocratique. Il y aurait d'un côté la classe politique et d'autre côté la classe des citoyens. Moi, je sais ce que ça signifie les classes et la lutte des classes, et je pense que la ligne de fracture, elle n'est pas, elle ne doit pas être là. En tout cas, moi, je me reconnais pas dans cette sorte de classe politique. Pour moi, c'est pas une réalité. Et je pense que cette manière de diviser en deux les citoyens d'un côté et les responsables politiques de l'autre, quelque part, c'est un coup porté à la démocratie, à la capacité d'agir des gens. Voilà. La politique, elle appartient aux citoyennes et aux citoyens. Et elle doit leur appartenir, en tout cas. Après, on peut considérer, effectivement, que le système politique tel qu'il est organisé, il fait que les gens ont de plus en plus le sentiment de ne pas décider réellement. Ils ont le sentiment que leur avis ne compte pas, que quand ils le donnent, il n'en est tenu aucun compte. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent cela. Donc, il faut transformer profondément les institutions pour les démocratiser au maximum. Je suis vraiment très favorable à ça.
Autre question, autre sujet pour en finir avec le national, celui du revenu universel qui a fait irruption dans le débat de la primaire de la gauche. Benoît Hamon ou encore Jean-Luc Benhamia s'y sont plutôt favorables, d'autres pas du tout. Comme par exemple, ça pourrait paraître un peu surprenant, c'est comme le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui lui prône plutôt la baisse du temps de travail et une augmentation du SMIC à 1 800 euros. Votre position là-dessus en tant que communiste?
Nous, les propositions, qui sont aussi celles de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, c'est effectivement l'augmentation du SMIC et des salaires, c'est la diminution du temps de travail, c'est la retraite à 60 ans, c'est une augmentation aussi des minima sociaux. Bon, effectivement, le revenu universel...
Qu'est-ce qui vous dérange?
Je ne prendrai pas les choses comme ça. Nous avons des propositions, il y en a une, en deux mots, si vous voulez, qui... peut avoir un lien de parenté, même si ça n'est pas la même chose. C'est la sécurité sociale de l'emploi et de la formation que nous portons. C'est-à-dire la volonté de permettre à celles et ceux qui travaillent de passer de l'emploi à la formation sans perte de revenus, avec une sorte de continuité, parce qu'on sait très bien que le travail se transforme, que dans une vie aujourd'hui, on reste pas... toute sa carrière au même poste, parfois dans la même entreprise, au même emploi, etc. Donc il y a des modifications, il faut se donner les moyens d'affronter ces modifications. Donc nous avons une proposition qui est de l'ordre de la protection sociale et d'un nouveau système de ce point de vue-là. Je pense que le revenu universel, ça n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est que ça, en tout cas...
Le fait de toucher au travail, ça reste un tabou?
Non, il n'y a pas de tabou. Il n'y a aucun tabou.
Arnaud Montebourg a dit, par exemple, moi, le travail, je suis contre cette mesure parce que le travail, c'est la valeur centrale, il faut se battre pour le travail. Dit-il.
Oui, mais moi, j'ai le sentiment, c'est ce que dit Philippe Martinez aussi, moi, j'ai le sentiment, effectivement, que le travail crée de la valeur et qu'il faut que le travail permette aux gens de vivre. J'ai envie que les gens aient du travail et j'ai envie aussi que leur salaire leur permette de vivre. C'est ça ce sur quoi il faut travailler. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui l'invente, il y a quelques jours de cela, on nous a annoncé la somme globale des dividendes distribués par les entreprises du CAC 40. 55,7 milliards d'euros pour 2016. C'est, je crois, 13 milliards de plus qu'en 2015. C'est colossal, c'est énorme. Donc ces richesses, il faut les capter, pour créer de l'emploi et pour créer du salaire. Moi, je pense qu'il faut d'abord s'attaquer à ça.
Michel ?
Alors, les législatives, on se rapproche de cette 13e circonscription. Vous voilà candidat et peut-être par l'effet aussi d'une loi sur le cumul des mandats, du non-cumul des mandats. De façon très honnête, le député sortant, Gaby Charroux, a dit que s'il avait pu, il était hostile à cette loi, s'il avait pu, on lui avait demandé son avis, il aurait voté contre. En clair, il aurait plutôt souhaité rempiler en défendant, comme beaucoup d'autres, la nécessaire articulation entre un ancrage local et un mandat national. Alors vous serez, si vous êtes élu, un député hors sol.
Non, je ne crois pas. Parce qu'il y a différentes manières aujourd'hui d'être élu de la République et d'être député. Par contre, le sens de l'engagement de Gaby Charroux en tant que suppléant à mes côtés, c'est aussi peut-être de m'aider dans le travail qui sera le mien, à être connecté à un certain nombre de réalités auxquelles les élus ont à faire face. Et on le voit d'ailleurs avec les modifications qui sont à l'œuvre, avec la mise en place de la métropole aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il y a besoin effectivement qu'un parlementaire soit alerté. Bon voilà, donc on va trouver des modes de fonctionnement, et c'est aussi ce que souhaite Gaby Charroux, pour que la connexion elle se fasse. Mais cette loi a été adoptée, nous on en tire les leçons ensemble et on va essayer d'avancer pour porter les batailles dont les gens de notre territoire ont besoin.
À titre personnel, vous êtes favorable à cette loi du non-cumul? Vous pensez que c'est premier effet positif? Vous allez peut-être devenir député à 41 ans, il a 74 ans, Gaby Charroux. Enfin, est-ce que ça amène pas du renouvellement? Est-ce que c'est pas mieux d'être plusieurs à prendre les responsabilités plutôt que de les concentrer?
Si, je suis plutôt d'accord avec ça. Tout à fait. Donc c'est ce qui va se passer. Ouais. Je pense que j'espère en tout cas, mais ça ne suffira pas, hélas, à démocratiser plus encore la prise de décision, etc. Donc je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les modifications démocratiques.
Plonger un petit peu dans les cuisines. Vous étiez le candidat naturel, le premier choix de Gaby Charroux. Est-ce que c'est l'appareil qui vous a un petit peu imposé?
Mais je ne sais pas de quel appareil vous me parlez.
Appareil parisien.
Mais vous m'avez expliqué tout à l'heure que l'appareil parisien, il a été désavoué ensuite par les militants. Donc, quel est le poids de cet appareil? Non, les choses se découpent pas comme ça. Il y a un parti, il y a effectivement une organisation, mais il y a surtout des militants qui décident. Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Effectivement, Gaby Charroux a proposé ma candidature, mais il n'a pas été le seul à le faire.
Et il a tardé à le faire, non?
Non, on a eu un débat tranquille, on a pris le temps de cette discussion au bon moment, je crois. Donc il fallait pas presser le pas, il fallait faire les choses comme on les a faites. Mais en tout cas, je pense que c'était plutôt une bonne chose. Et on a pris aussi le temps de permettre à chacune et à chacun aussi de s'investir dans cette discussion et de donner son avis.
Il y a eu un vote militant pour
oui,
vous désigner?
Bien sûr.
D'accord. Oui. Alors, on le disait au tout début, mais les élections qui s'annoncent vont être difficiles. Il y a 41 députés en PACA. Peut-être il n'y aura pas beaucoup de députés de gauche en définissant la gauche de façon le plus large possible dans cette région. Cette circonscription est réputée comme l'une des circonscriptions gagnables, si on regarde simplement en arrière. Vous êtes comment? Raisonnablement optimiste? Vous pensez que c'est gagnable ou un peu inquiet?
Je rappelle quand même aux auditeurs que cette circonscription, la 13e, était tenue par Gaby Charroux et avant par Feu Vaxès qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une circonscription qui est plutôt favorable aux communistes.
Oui.
Qu'il était en tout cas.
Oui, tout à fait. Je suis dans la bataille. Dans le combat, parce qu'on voit bien que la situation politique nationale aujourd'hui est très instable, qu'elle est compliquée, qu'on s'interroge aujourd'hui sur ce sur quoi elle va déboucher et qu'on peut nourrir quelques inquiétudes. Donc le sens de notre engagement à ce stade, aujourd'hui, alors que tout le monde ne parle que de la présidentielle, c'est de contribuer à cette discussion, de ne pas regarder le débat se faire sans nous. Voilà. Donc cet engagement, le mien, celui de Gaby Charroux, c'est celui-là. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est qu'on y va pour gagner. Oui, on y va pour gagner parce que d'abord nous sommes sortants et parce que nous sentons bien que, y compris dans ce territoire, je crois que en tout cas on est plutôt en phase avec des aspirations qui se sont exprimées fortement. Hein, elles se sont exprimées au printemps. Je crois que il y a une histoire de gauche dans cette circonscription. Et donc notre volonté, c'est de travailler à rassembler le plus largement ces hommes et ces femmes, à les mobiliser, parce que le risque que nous avons, c'est qu'ils soient démobilisés, qu'ils soient aujourd'hui devant le spectacle offert par la politique nationale, qu'ils se demandent si effectivement ça peut servir encore à quelque chose de se déplacer. Moi je crois que oui, donc je vais travailler à les convaincre de cela.
Ils se sont démobilisés et on a vu dans cette circonscription le Front National, comme partout dans la région, mais là-bas comme ailleurs dans la région, arriver à quasiment 50% des suffrages.
Oui, au deuxième tour de l'élection régionale, où le candidat était
élection régionale, tout à fait.
Voilà, où le candidat était M. Estrosi.
Comment expliquer que sur un territoire comme ça, qui est jalonné, qui finalement aux mains, il y a des maires communistes, il y a un député communiste,
vous savez,
il y a une histoire, il y a et malgré ça, on arrive à ce résultat. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que le Front National espère, lui, c'est votre adversaire peut-être le plus sérieux dans cette bataille?
Tout à fait. Et je crois d'ailleurs que nous avons conscience, nous, que la responsabilité qui repose sur nos épaules, c'est bien celle-là. C'est d'empêcher le Front National de gagner une circonscription et nous, de pouvoir porter les valeurs progressistes qui sont les nôtres jusqu'à l'Assemblée Nationale. Donc je crois qu'effectivement, c'est nous qui pouvons faire cela. Nous, avec tous les gens qui se reconnaîtront dans notre candidature. Mais je voudrais, pour répondre à votre question, on ne peut pas simplement sortir du contexte global. Parce que la réalité, c'est que la porosité entre la droite et l'extrême droite, sur le plan des idées ces dernières années, fait que les hommes et les femmes de gauche ont sans doute à l'élection régionale eu du mal à se déplacer pour aller voter contre le Front National et voter pour M. Estrosi lors du deuxième tour. On l'a constaté dans la 13e circonscription, mais on l'a constaté bien ailleurs. Parce que, voilà, on voit bien que les propos de messieurs Ciotti, Sarkozy, Copé et quelques autres, les propositions qu'ils ont portées, celles de M. Fillon lui-même.
D'accord, mais dès le premier tour, la liste Front National a devancé très 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 largement celle du Front de Gauche et des écologistes.
Enfin, je rappelle pour les auditeurs qu'au dernier régional, vous étiez allié avec Europe Écologie Les Verts, que vous avez fait 6,5% des voix.
Tout à fait. Oui,
voilà,
c'est vrai. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que bien sûr que le Front National est très haut et que ça nous préoccupe. Et je pense que la manière dont s'est passé le quinquennat, hélas, n'a fait qu'accroître ce risque-là, parce que ça a nourri la désespérance. Il n'a pas été répondu aux attentes quotidiennes des hommes et des femmes, à leurs questions sur le pouvoir d'achat, sur leurs droits. On a vu des services publics plutôt s'affaiblissant dans la dernière période. Voilà, le mal-vivre a plutôt cru dans la dernière période. Et donc, on sait très bien que le Front National prospère sur la crise. On sait très bien que c'est là-dessus, sur une sorte de tromperie d'ailleurs, qu'il fonde sa progression. Donc ça a de quoi, je crois, inquiéter. Et nous avons besoin de démonter cette tromperie et de convaincre surtout qu'il y a un autre projet possible, un projet enthousiasmant, un projet émancipateur, un projet porteur de réponses concrètes aux questions que se posent les gens. Je crois que ça, c'est le travail qui est devant nous et nous allons le faire dans les 6 mois qui viennent.
Sophie Camard, qui était la candidate avec laquelle vous étiez alliée au dernier régional, a sorti un livre il n'y a pas longtemps intitulé « La politique en état d'urgence », qui fait un petit peu le bilan de cette campagne régionale et elle a cette phrase en forme d'aveu. Elle parle de rupture réelle entre la gauche en général, et sa base sociologique. Ça, vous le constatez, vous allez avoir des difficultés à combattre ça.
C'est pas des difficultés nouvelles. Elles se sont pas révélées aux dernières élections régionales. Mais je crois, effectivement...
Mais là, elles se sont faites sous un gouvernement
si vous voulez,
dit de gauche.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et le fait que ça se soit passé de cette façon-là, que le quinquennat se solde de la façon que nous connaissons, effectivement, ça n'aide pas. Ça, c'est ce que je vous ai dit dès le démarrage. Bon, mais moi, il me semble qu'on est dans une crise politique profonde. Et que cette crise politique, c'est aussi une crise de la République, mais une crise de la gauche. La gauche, l'idée de gauche, elle-même, est en crise. Donc il faut, je pense, parvenir à reconstruire la gauche aujourd'hui. Plus que jamais, après ce quinquennat, il y a besoin de la reconstruire. Donc nous, on va s'atteler à ça. Et la reconstruire, ça veut dire, effectivement, vous avez raison, la reconnecter avec les attentes populaires, avec ce que souhaitent les hommes et les femmes dans nos quartiers, dans nos entreprises, etc., etc. Et ça, c'est un travail patient, c'est un travail de contact et de conviction.
Michel,
désolé de revenir à la mécanique électorale, mais Mélenchon, votre candidat à la présidentielle, a annoncé qu'il allait mandater, enfin désigner des insoumis, des candidats dans toutes les circonscriptions. Il y a eu un communiqué du parti de gauche des Bouches-du-Rhône juste après l'annonce de votre candidature, disant ben, il y aura un insoumis, un candidat insoumis dans cette circonscription. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cet éclatement des gauches à la présidentielle soit répercuté, y compris au plan local, dans cette 13e circonscription?
Vous avez la confirmation d'abord du candidat insoumis face
non,
à vous?
Non, absolument pas. J'espère que nous aurons la force collective de surmonter cela. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, on est disponible pour travailler au rassemblement le plus large possible sur les bases qui nous conviennent, hein, et que nous serons capables de construire ensemble. Mais ça, c'est notre volonté. Bon, après,
jusqu'au Parti Socialiste, je suis désolé, je reviens à ça.
Non, mais je me pose pas la question en ces termes.
Est-ce qu'il faut le faire pour battre le Front National? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à faire ce front commun?
Non, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Le Parti Socialiste assume le bilan de François Hollande. Si c'est pour continuer comme ça, ça sera sans nous. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Il y a quand même besoin de tirer un peu des leçons de ce qui s'est passé. Bon, on a combattu nous ces orientations politiques pendant 5 ans. C'est pas pour aujourd'hui dire ben finalement non. On les a combattus pour des raisons claires et précises. Non. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que nous avons fait le choix sans condition de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Et nous, c'est ce que nous faisons, nous menons campagne.
Sans condition, ça veut dire qu'il peut mettre des candidats face à vous aux législatives, ça ne va pas brouiller le message?
Ah ben je pense que ça brouillera le message, de fait, oui. Bien sûr que ça brouillerait le message, si on en arrivait là. Mais je pense qu'il faut que chacun, voilà, prenne ses responsabilités dans cette affaire-là.
Et c'est un aveu de faiblesse, finalement, parce que vous n'avez pas beaucoup de cartes à lui opposer. C'est presque un aveu de faiblesse que vous êtes en train de dire. Là.
Mais moi, je ne suis pas dans des logiques de rapport de force, dans des logiques de construction positive.
On va parler par litote. La politique, ce n'est que des rapports de force. Vous le savez très bien.
Oui, mais justement, construisons ce rapport de force ensemble. Moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est un partenaire pour moi. Donc voilà, on va mener des discussions et on va les mener de manière positive. Et je suis confiant sur notre capacité à aboutir.
Alors c'est anecdotique, mais j'ai vu que Paul Lombard vous soutenait.
Tout à fait.
Parce que pour les auditeurs, Paul Lombard, ancien maire de Marty, qui était rentré en conflit avec son successeur,
Gabi Charron. Et j'en suis très heureux,
Il avait fait 4%, ouais. Je crois, hein, en dernière...
Oui, 4 ou 5%.
Il sait que Gabi Charron est votre suppléant.
Il sait tout, il est très au courant de tout. Et son engagement, je crois, est un beau témoignage et un encouragement dans cette campagne.
Qu'est-ce que vous allez promettre ou qu'est-ce que vous allez essayer de... Comment vous allez convaincre dans cette circonscription populaire, cette 13e circonscription, alors que le Front National qui se revendique aujourd'hui désormais d'être le premier parti des ouvriers, le parti des ouvriers en tout cas, qu'est-ce que vous allez essayer de promettre que vous n'avez pas déjà promis et non tenu depuis
Mais
longtemps.
Vous sous-entendez que nous procéderions par promesse et par promesse éventuellement non tenue. Bon. Donc moi, je suis plutôt dans l'engagement et dans la bataille avec les gens.
Vous avez parlé tout à l'heure d'environnement, sachant que probablement le prochain gouvernement sera un gouvernement de droite.
J'espère que non, on va se battre contre ça.
Probablement, j'ai dit, un gouvernement de droite, un député communiste, qu'est-ce qu'il peut promettre, sachant que, bon... Il n'aura rien à offrir à part des promesses.
Non, mais je crois que la politique, c'est pas ça. Vous avez dit, c'est des rapports de force. Donc je crois que dans le rapport de force, on va pouvoir gagner des choses. Et on va s'attacher à ça. Mais c'est pas un député tout seul qui va gagner à l'Assemblée nationale. C'est si on arrive à créer du mouvement populaire, à permettre aux gens eux-mêmes de donner leur avis, de l'exprimer le plus fort possible. Donc un parlementaire, pour moi, il doit servir à ça, à donner de l'écho aux préoccupations des gens, à leurs désirs, à leurs projets. Donc moi, c'est à ça que j'ai envie d'être utile. Donc ce que nous allons faire, c'est regarder sur ce territoire à quoi nous pouvons travailler pour construire l'avenir. Par exemple, sur les questions industrielles, on les a évoquées tout à l'heure, du point de vue du défi environnemental que ça représente. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là, et du point de vue y compris de la construction d'un outil industriel durable qui soit capable de nous permettre de produire, mieux, de produire autrement. Donc on va porter cette bataille-là. J'ai déjà commencé à rencontrer tout un tas de salariés qui ont des projets très concrets pour cela. Mais ça suppose au moins une chose, c'est qu'on arrive à faire reculer le pouvoir de la finance. Et moi, Ça, c'est une des raisons de mon engagement en politique. C'est justement de permettre aux gens d'exercer pleinement leur pouvoir de citoyenne et de citoyen et de ne pas l'abdiquer devant ces forces complètement antidémocratiques qui se l'accaparent.
Michel ? Notre slogan de campagne, je crois que c'est « Plus fort la gauche, plus fort le peuple ». Alors c'est pratique, il y a les deux mots « gauche » et « peuple », alors qu'il y a un débat entre certaines personnes qui disent, je pense aux Espagnols, Podemos par exemple, maintenant c'est fini la gauche, c'est un épouvantail, c'est devenu, ça rappelle les vieux compromis, les vieilles mécaniques, maintenant c'est le peuple. Là vous utilisez les deux termes, ils ne s'opposent pas, la gauche, c'est, on peut parler de gauche et mobiliser des gens en parlant de ce terme-là,
oui.
Les gens ne pensent pas aussitôt, je ne sais pas moi, Valls, Macron...
Mais moi je pense que la gauche n'a pas de raison d'être sans le peuple et que les solutions pour le peuple, elles se trouvent à gauche, pour peu qu'on la définisse clairement et qu'on mène son combat plutôt que de l'abandonner une fois qu'on a fait des grands discours sur des estrades et brandi le drapeau rouge. Voilà. Donc moi il me semble que l'idée de gauche, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est abîmée, bien sûr elle est abîmée. Elle est abîmée parce que quand des gens se revendiquant de la gauche font ce qu'ils ont fait au pouvoir, c'est à n'y rien comprendre et c'est à se révolter. Bon, donc, mais moi, je ne renonce pas à cette idée-là, parce que cette idée qui est l'idée du progrès social, qui pour moi est une idée, plus que jamais une idée neuve, l'idée de l'émancipation humaine, l'idée de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Je crois que la gauche a été au cœur du mouvement pour l'installation de la République, République elle-même qui est en question aujourd'hui. Si on faisait le bilan de la liberté, de l'égalité des droits dans ce pays, et de l'état de la fraternité, on verrait tout le chemin qui reste à parcourir. Donc je crois qu'il y a de grands combats à mener pour la gauche aujourd'hui, mais il faut vraiment qu'elle ait l'ambition de les mener. Donc moi, c'est plutôt une idée que j'ai envie de porter haut, de redorer, à laquelle j'ai envie de redonner des couleurs. Et je pense qu'il se trouve beaucoup d'hommes et de femmes dans notre pays qui se reconnaissent dans ces valeurs-là, mais qui aujourd'hui, hélas... ne voit plus suffisamment la possibilité de les faire grandir dans le paysage politique tel qu'il est.
Les couleurs sont brouillées, Marine Le Pen sur ses affiches met une rose bleue.
Mais ça participe de leur manipulation habituelle.
Et en préparant cette émission, suite à la publication d'un de vos essais sur la laïcité, je voyais des commentaires en disant « encore un communiste qui adore les Arabes
». Oui, c'est pas je une sais, critique lu, que je prends mal. Effectivement, celui qui dit ça a raison de le dire. Moi, j'aime les humains. Le fondement de mon engagement, c'est celui-là. L'humain d'abord, on a dit pendant la dernière campagne électorale en 2012. On va continuer à le dire cette fois-ci. Et oui, ça fait partie profondément de mes valeurs. Moi, je crois que les responsables de la crise, c'est pas ceux que désigne le Front National en permanence de manière plus ou moins claire d'ailleurs, parce qu'ils se cachent maintenant un peu pour faire cela. Les responsables de la crise, c'est ceux que j'ai désignés tout à l'heure. Ce sont les grands propriétaires, les grands possédants. Dans notre pays, en Europe et dans le monde. Mmh. Et c'est à cela qu'il faut aujourd'hui s'attaquer et reprendre le pouvoir.
Un mot peut-être sur les migrants. C'est une crise qui s'installe durablement, apparemment. Les gens, y compris dans votre circonscription, avec d'autres migrants, d'autres formes de migration, en tout cas ce sont les travailleurs délocalisés, ont marqué une certaine hostilité. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Au contraire, la région, il faut qu'elle s'ouvre davantage aux migrants, les réfugiés de guerre, etc., y compris dans un tout autre registre, bien sûr, les travailleurs délocalisés. Soyons pour un monde sans frontières, un monde ouvert.
Vous savez, j'ai beaucoup aimé le dernier livre de Bernard Thibault qui s'appelle « La Troisième Guerre mondiale sera sociale », dans laquelle il décortique au plan international la question des droits du travail, des droits des salariés. D'ailleurs, Bernard Thibault sera dans le département très prochainement, le 7 février, à Port-de-Bouctes, pour une réunion publique où il aura l'occasion d'évoquer tous ces sujets-là. Parce que je crois que la question pour nous, elle est de faire grandir les droits sociaux partout, pour l'ensemble des travailleurs, des salariés. Et c'est ce que j'entends. J'étais encore sur le port ce matin. On a eu quelques discussions avec un certain nombre de syndicalistes. Eux, ils se battent pour que les travailleurs, quelle que soit leur origine, quel que soit le lieu d'où ils viennent, ils aient des droits les mêmes que les autres, qu'ils aient des salaires décents, etc., etc. Et je crois que c'est ça le combat qu'il convient de mener. Donc voilà, enfin, pour moi c'est une bataille sur laquelle il y a possibilité de trouver des convergences à l'échelle internationale. Peut-être la deuxième chose, c'est que moi il me semble que l'Europe, la France doivent assumer les devoirs que leur impose les valeurs qui ont comment dire fondé un certain nombre de choses dans nos pays. La République française, quand elle dit liberté, égalité, fraternité, elle dit pas liberté, égalité, fraternité, rien que pour nous, ici, les quelques-uns que nous sommes. Ce sont des valeurs dont elle pense qu'elles peuvent avoir une portée universelle. Et donc je crois que quand des hommes et des femmes fuient la guerre, la misère, la faim, les problèmes climatiques également, notre responsabilité avec eux et avec d'autres, c'est de trouver des solutions, c'est pas de fermer les yeux. Et donc, voilà, il me semble que, y compris d'ailleurs, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les responsabilités qui sont celles de nos pays dans ce qui se passe aujourd'hui. Moi, en 91, j'étais tout jeune, je manifestais déjà contre la guerre du Golfe. Mmh. Peut-on imaginer qu'il n'y a pas de lien entre ce qui s'est passé à cette époque-là et les problèmes que nous connaissons aujourd'hui?
Vous avez cité tout à l'heure l'ancien premier secrétaire de la CGT, qui sera présent le 7 février. La guerre mondiale sera sociale. En même temps, on a l'impression que la gauche l'a perdue, cette guerre sociale. Quand on vous a reçu il y a quelque temps de ça, on parlait beaucoup du Venezuela, on parlait des indignés de Wall Street, on a parlé récemment de Nuit Debout. Aujourd'hui, en Amérique latine, les gauches reculent beaucoup. En Europe également, en France, on a le résultat. C'est terminé, la gauche? Ou cette gauche-là, en tout cas?
Non. Je pense qu'on est dans un combat difficile et dans une phase difficile du combat. Parce que les forces que nous avons en face, qui sont les forces de la finance, ont des atouts importants, elles ont du pouvoir, et qu'elles essayent d'asseoir de manière encore plus forte, encore plus autoritaire, ce pouvoir qui est le leur, et que effectivement, parfois, on se trouve en difficulté. Mais moi, je pense que il y a de l'espoir, il y a des choses qui grandissent. On l'a vu d'ailleurs en Europe, la réaction d'un certain nombre de peuples, la réaction du peuple grec. Je crois que les gens cherchent des issues en réalité. Vous voyez, quand on regarde ce qui s'est passé les derniers temps, où tout ce qui était annoncé par les sondages a été démenti par les électrices et les électeurs. Je crois que ça montre que les gens sont en quête de nouveaux espoirs. Et je pense que si la gauche travaille bien, elle pourra être le nom de ces nouveaux espoirs.
Michel. On parle de phase difficile. Il y en a une qui traverse à nouveau la Marseillaise, hein, qui a été en dépôt de bilan, puis qui a été repris par les fédérés dont vous étiez le président, donc de fait le directeur de la publication du quotidien régional. Et puis à nouveau, redressement judiciaire, difficulté. Vous craignez pas qu'on vous reproche de quitter le navire dans un moment difficile? Vous avez, j'imagine, réfléchi à cette décision-là. C'était incompatible d'être candidat à une législative et à la fois patron de presse. C'est ça qui a motivé votre décision?
D'abord, je crains d'autant moins qu'on me reproche de quitter le navire que je ne l'ai pas quitté. Parce que
vous n'êtes plus à sa tête.
Voilà, je ne suis plus le capitaine, mais je n'ai pas quitté le navire. Je suis encore évidemment pleinement engagé pour que ce journal ait un avenir. Et donc nous avons pris ensemble, parce que c'est une aventure collective. Moi, j'en ai été le nom pendant quelques temps. J'ai beaucoup donné, tout ce que je pouvais donner pour ce journal. Et on entre dans une phase où une phase politique intense. Où en plus je suis candidat, en plus je le suis, mais où je crois qu'il était nécessaire que quelqu'un prenne un peu le flambeau. Et je crois que cette décision a été plutôt bien accueillie par les lecteurs, mais aussi par les salariés du journal qui, je crois, ont apprécié l'engagement qui a été le mien, mais apprécient aussi qu'on crée les conditions de poursuivre cette bataille autrement. Donc voilà, moi j'ai confiance dans l'avenir de ce journal et j'ai confiance dans les gens qui aujourd'hui agissent pour qu'ils trouvent un avenir.
Il y a une question quand même qui s'est posée au tribunal du commerce, on a couvert, hein, on s'intéresse évidemment à l'avenir de la Marseillaise. C'est cette tension, ou dites-nous, qui existe entre la Marseillaise et le mondial à pétanque avec une convention en souffrance, de l'argent, une convention qui n'est toujours pas signée. Comment expliquer ça vu les risques qui pèsent sur ce journal?
Écoutez, le mondial à pétanque, c'est Michel Montalin. Hein.
Vous comprendrez que compte tenu du fait que j'ai quitté les responsabilités de président, c'est compliqué pour moi aujourd'hui de m'exprimer sur des sujets internes à l'entreprise. Donc je vais m'abstenir de le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que l'état d'esprit qui était le mien, mais je pense que c'est aussi celui de la nouvelle direction d'entreprise, c'est d'œuvrer à faire réussir le journal et tout ce qu'il a porté jusqu'ici, y compris le mondial, et de rassembler tout le monde autour de la réussite de ce projet.
Dernier mot, vous êtes optimiste pour la Marseillaise, vous pensez que ce journal peut s'en sortir, peut se développer et doit se développer ?
Oui, bien sûr. Je pense que, si vous voulez, le pluralisme de la presse, c'est une question démocratique éminente aujourd'hui, et il serait, de mon point de vue, grave, dramatique, que ça soit simplement des grands groupes industriels et des grands groupes d'armement qui possèdent la presse dans ce pays. Donc ce journal, c'est un journal indépendant de toutes ces puissances financières, et je crois qu'il est décisif qu'il existe, et je pense qu'il peut avoir un avenir.
On n'a pas le temps d'en parler, mais enfin, indépendant, quand on a à sa tête le premier secrétaire départemental des communistes, c'est une indépendance qui est un peu compliquée.
Je crois que vous vous trompez là-dessus. Et c'est pas à ce titre que j'ai présidé ce journal.
En tout cas, la Marseillaise, c'est 15% d'abonnés en plus depuis qu'il y a la crise, donc les gens veulent acheter et veulent lire ce journal. C'est un manque de recettes publicitaires, espérant qu'elle va se ressaisir. Pierre Daréville, je vous remercie. Allez, au mois prochain, bye.
Merci.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.